Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Va-t-on rouvrir les écoles pour sauver l'économie française au détriment de la santé des enfants et de leurs parents? Depuis l'annonce de la reprise de la classe à partir du 11 mai, certains se réjouissent de la fin des cours à la maison, d'autres s'inquiètent. Les députés se sont emparés du débat cet après-midi à l'Assemblée. Débat médical aussi, car si l'on a dit depuis le début que les enfants contaminaient davantage que les adultes, des scientifiques s'interrogent aujourd'hui sur ce postulat. Amazon condamné par la justice pour ne pas assez protéger ses salariés et pour continuer à vendre des produits qui ne sont pas de première nécessité. En revanche, des entreprises sont exemplaires face au virus, exemple dans la plus vieille savonnerie de France où l'on n'a même pas besoin de gel hydroalcoolique. Nous irons à Gaza également où des Palestiniens ont été arrêtés pour avoir discuté sur l'appli Zoom en visioconférence avec des Israéliens. Et la culture souffre en France, annulation des festivals les uns après les autres, des Franco de La Rochelle aux Nuits de Fourvière à Lyon. Les libraires, eux aussi, ont baissé le rideau. Certains s'organisent quand même avec le système.
France Inter. La réouverture donc des écoles à partir du 11 mai, une échéance mais surtout beaucoup de questions.
C'est l'annonce la plus commentée de l'intervention du président Macron hier soir. Le chef de l'État a motivé sa décision par la volonté de lutter contre les inégalités. Elles se creusent entre les élèves à cause du confinement et de l'éducation en ligne. Les familles sans ordinateur ou avec un seul écran pour plusieurs frères et sœurs. Les élèves en zone blanche, sans connexion ou sans parents pour suivre le travail. L'école manque plus que jamais. Mais accueillir 30 élèves dans une classe le 11 mai, alors que le coronavirus ne sera pas éradiqué, est-ce bien raisonnable? Le débat s'est déplacé dans l'arène politique cet après-midi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Élodie Forêt.
Y aura-t-il des masques en nombre suffisant pour les élèves et les enseignants? La date de reprise sera-t-elle différente selon les régions? Est-ce que l'école sera obligatoire? Autant de questions soulevées cet après-midi, notamment par le député UDI Jean-Christophe Lagarde. À gauche, Alexis Corbière de la France Insoumise, lui, se fait plus offensif, accusant le gouvernement d'accélérer cette reprise par pure logique économique.
Pourquoi faire courir des risques aux enseignants, au personnel des écoles, y compris aux enfants, en étant incapable de dire dans quelles conditions sanitaires cet accueil scolaire pourra avoir lieu? On a le sentiment que vous répondez à une injonction de la part du MENEF qui nous dit business d'abord, alors que l'aspiration des Français, c'est santé d'abord.
L'économie n'a rien à voir dans le choix de cette date, répond le ministre de la Santé, Olivier Véran. Édouard Philippe insiste, lui, sur le caractère progressif de cette reprise, avec un fonctionnement qui sera sans doute différent de la normale, sur l'importance aussi d'un retour à l'école pour éviter que les inégalités sociales se creusent.
Il y a un impératif qui est réel. Bien entendu, il ne peut pas se faire au prix de la santé. Il doit être conjugué avec la nécessité de garantir le respect de règles sanitaires qui sont évidemment décisives et auxquelles nous pensons à chaque instant. Et c'est ça le travail qui nous attend.
Le Premier ministre qui présentera bien avant le 11 mai, promet-il, un plan complet de sortie du confinement.
Débat politique, débat parmi les enseignants, parmi les parents aussi. Sur les réseaux sociaux, on voit fleurir le mot-clé hashtag 100 mois le 11 mai. Débat aussi parmi les médecins. La réouverture des écoles à partir du 11 mai ferait courir un risque inutile, dit Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France. Car depuis le début de la crise, les autorités sanitaires et politiques partent de ce postulat. Les enfants sont des vecteurs majeurs de l'épidémie, souvent asymptomatiques ou avec des symptômes légers. Ils observent moins bien les gestes barrières et contamineraient davantage de personnes que les adultes. Un postulat questionné aujourd'hui par des chercheurs, Daniel Messager.
Depuis le début de l'épidémie, les scientifiques engrangent des informations tous les jours. On sait dorénavant que ceux qui présentent pas ou très peu de symptômes contaminent peu, et ce serait donc le cas des enfants qui effectivement sont la plupart du temps sans symptômes. Parce qu'on raisonnait sur des virus existants, comme celui de la grippe, Pascal Crépet est enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique de Rennes.
Le coronavirus, c'est un virus un peu du même type que la grippe, donc un virus respiratoire qui se transmet par à peu près les mêmes modes de transmission que la grippe. Donc on avait toutes les raisons de penser que ce virus utilise les mêmes vecteurs et donc notamment les mêmes populations pour se transmettre. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ça n'est pas forcément le cas.
Alors est-ce dangereux de réouvrir les écoles en mai ou pas?
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est certainement moins dangereux que ce que l'on croyait lorsqu'on a fermé les écoles, que le risque lié à la réouverture des écoles est certainement moindre que ce que l'on aurait pu imaginer, mais c'est seulement en faisant des études un peu plus détaillées, un peu plus poussées sur les enfants et leurs risques de transmission que l'on pourra confirmer ces éléments.
Et pour le savoir, la Société française de pédiatrie démarre justement une étude qui portera sur 600 enfants.
Daniel Messager, en tout cas le 11 mai doit être un horizon, une date à conquérir par le respect du confinement. A martelé ce matin le ministre de l'Intérieur sur notre antenne. Pas question donc de relâcher l'effort.
Eux, en revanche, sont soupçonnés de ne pas en faire assez d'efforts.
Les assurances, elles sont pressées par le gouvernement d'investir davantage, de mieux soutenir l'économie française stoppée brutalement par le confinement. Les patrons se plaignent de plus en plus de ne pas pouvoir se tourner vers elles, le risque de pandémie n'étant pas couvert dans de nombreux contrats. Alors le secteur fait un geste aujourd'hui. Il propose de porter à 2,5 milliards d'euros leur participation à l'effort national. Le patron d'AXA, Jacques de Peretti, parle au nom de la profession. Un secteur mobilisé, il le promet.
Dans cette crise, il faut bien avoir en tête que nous sommes sur le pont depuis le premier jour et que notre profession joue un rôle fondamental. Nous faisons face à une dérive exceptionnelle des indemnisations. Par exemple, sur les arrêts de travail, la santé, l'assurance décès, l'assurance des créances impayées, les assurances annulations. Et toutes ces dérives ne sont pas compensées, on va dire, et loin de l'être, par la baisse de la sinistralité que nous enregistrons en ce moment sur l'automobile. Donc, nous sommes touchés dans notre métier. Et puis, d'autre part, nous avons mis aussi en place des actions extrêmement fortes en termes de solidarité, qui tournent autour d'1 milliard d'euros. Nous sommes le secteur professionnel qui avons contribué le plus au fonds de solidarité de l'État mis en place au profit des commerçants, des artisans et des petites entreprises. Et enfin, comme tous les secteurs, nous sommes touchés par la baisse de notre chiffre d'affaires depuis le début de cette crise, de l'ordre d'1 milliard aussi.
Jacques de Peretti, le PDG d'AXA France, qui met 375 millions d'euros sur la table pour ses clients professionnels et entreprises. Il était joint par Manuel Ruffez. Et voilà un groupe sévèrement mis à l'index. C'est Amazon. Le tribunal de Nanterre a condamné le géant de la distribution à restreindre son activité aux seuls produits essentiels, l'alimentation et l'hygiène, et à faire son possible pour protéger ses employés dans les entrepôts de l'Hexagone sous peine d'une astreinte d'1 million d'euros par jour de retard et par infraction constatée. Heureusement, d'autres entreprises prennent davantage de précautions pour faire travailler leur personnel. Exemple à Marseille avec la plus ancienne savonnerie du pays, le Fer à Cheval. Sauvée de la faillite il y a 7 ans, l'usine produit aujourd'hui plus de 150 tonnes de savon par semaine. Les 29 ouvriers appliquent depuis le début de l'épidémie des règles strictes d'hygiène. Le patron de la savonnerie marseillaise s'est servi de son expérience professionnelle en Asie pour faire face. C'est le reportage d'Olivier Martoc.
Tous les matins, la même procédure se répète.
C'est bon, je regarde, il faut que je sors l'appli. Michel, c'est pareil que hier.
Raphaël Seguin, le président de la savonnerie du Fer à Cheval, fait le tour des ateliers. Michel Bianconi, qu'il vient de soumettre à son pistolet laser, et le maître savonnier.
On est un peu plus rassuré, vu comme le patron nous contrôle, qui nous donne les masques, qui nous donne le gel. Bon, entre parenthèses, le gel, j'en ai pas besoin, hein. Nous, il y a le savon. Hein. Voilà.
Raphaël Seguin, qui a fait toute sa carrière en Asie avant de reprendre il y a 7 ans la savonnerie, qui était alors en faillite, n'a pas été pris au dépourvu.
Fin février, on a commencé à instaurer les gestes barrières. Au début, c'était un peu compliqué, parce que quand je demandais aux gens de ne pas faire la bise, on me regardait un peu comme un extraterrestre et on se foutait de moi derrière mon dos. On a assuré un stock de masques suffisant avant que ça devienne vraiment une vraie pénurie. Donc tous les employés sont munis de masques, de gants, le gel est dans tous les ateliers. Pour moi, le pire, c'est la peur, quoi. Et la peur, si on la laisse prendre contrôle, c'est difficile d'en revenir, quoi.
L'usine tourne à plein régime, la demande de savon de Marseille explose. Problème, les boutiques sont fermées en France. Résultat, c'est l'Europe et surtout l'Asie qui achètent actuellement ces savons naturels et de fabrication traditionnelle. Pour se les procurer, il y a Internet. Un drive-in va être ouvert cette semaine dans la cour de l'usine pour fournir les Marseillais. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
À l'étranger, Amélie, l'épidémie fait des ravages, mais ça n'empêche pas la campagne américaine de se poursuivre.
Et c'est le message que Joe Biden attendait, celui de Barack Obama, l'ancien chef de l'État démocrate, annonce son soutien à son ancien vice-président capable, je cite, de guider l'Amérique à travers les heures les plus sombres. C'est le communiqué de Barack Obama cet après-midi, un ralliement précieux, tant Obama reste populaire chez les démocrates au moment donc où Joe Biden doit rassembler son parti. après l'abandon de son rival plus à gauche, Bernie Sanders. Donald Trump, lui, aura du mal à se vanter d'un bon bilan économique lors de la présidentielle américaine en novembre. Le PIB des États-Unis va se contracter de 5,9% cette année, prévoit le Fonds monétaire international. Le Royaume-Uni pourrait subir une chute historique de 13% de son produit intérieur brut en 2020, selon un scénario publié par un institut public aujourd'hui. Le FMI anticipe également une chute record de 7,5% du PIB dans la zone euro. La pandémie a aussi des conséquences sérieuses sur les libertés individuelles, surtout avec notre utilisation forcée et accrue des communications numériques, du télétravail, de la dématérialisation de nos échanges. À Gaza, des civils palestiniens ont été arrêtés, accusés de trahison pour avoir parlé avec des Israéliens via l'appli Zoom, une plateforme de visioconférence. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous.
Notre correspondant en direct de Jérusalem. Alors Frédéric, des discussions sur Zoom sont donc très surveillées par les autorités palestiniennes.
Oui, et surtout des discussions vers Israël. Il y a 8 jours, 2 heures d'échange en anglais entre des Gazaouis et des Israéliens pour parler de leur vie respective, de la paix, de politique. Un événement organisé par Rami Hanan, 38 ans, qui veut ouvrir depuis des années le dialogue avec Israël. Il est en détention avec 5 autres personnes après qu'une activiste palestinienne, ancienne collaboratrice d'Amnesty International, l'a signalé sur Facebook. Mais il était déjà sous surveillance. Le Hamas l'a arrêté plusieurs fois. L'année dernière, par exemple, après qu'il avait organisé simultanément 2 randonnées à vélo de chaque côté de la clôture qui sépare Gaza d'Israël. Pour le Hamas, tout dialogue avec les Israéliens est un crime religieux, politique et morale. Et pourtant, Amélie, selon la presse israélienne, Hamas et Israël se parlent sur fond de coronavirus. Les Palestiniens seraient prêts à donner des informations sur les corps de 2 soldats israéliens morts à Gaza et sur 2 civils israéliens détenus dans l'enclave contre des respirateurs et du matériel sanitaire avant peut-être de les échanger avec des prisonniers palestiniens en Israël.
Merci Frédéric Mettezon, direct de Jérusalem pour France Inter.
Et l'épidémie décime nos relations sociales et elle est en train aussi de ravager les festivals de l'été.
Et à l'instant, on l'apprend, le festival de Cannes envisage de nouvelles formes pour l'édition 2020. On y reviendra dans nos prochaines éditions. C'est fini. En revanche, pour les Francofolies de La Rochelle, elles annulent. Les Nuits de Fourvière à Lyon renoncent également, tout comme Jazz à Vienne ou le Main Square d'Arras et le Festival d'Avignon. La liste ne cesse de s'allonger depuis hier soir, depuis qu'Emmanuel Macron a décrété que les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet. Privé de musique en live, de théâtre, privé de lecture aussi quand on n'a pas fait ou pas assez de réserves de livres avant le confinement, avant la fermeture des librairies. Aujourd'hui, elles rouvrent en Italie, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour chez nous. Alors, des libraires français se sont lancés dans le système D, des réservations par mail et téléphone, des sortes de drive. Ils sont une minorité toutefois, Ilana Mor-Youssef.
Tous les matins, Nathalie Iris pousse la porte de sa librairie, Mot en marge, à la Garenne Colombe dans les Hauts-de-Seine. De 10h à midi, elle y assure une permanence.
J'ai décidé de proposer à mes clients un service de réservation par mail ou téléphone et de retrait à la porte de la librairie tous les matins. Alors évidemment, je ne peux proposer que des livres en stock puisque les fournisseurs sont fermés. Néanmoins, ce système de drive ou de click and collect en toute sécurité permet de maintenir un minimum de chiffre d'affaires et de maintenir un lien local minimum.
Nathalie Iris reconnaît que ce système est plus facile à mettre en place dans des librairies de petite taille avec peu ou pas d'employés. La majorité des libraires ne souhaitent pas le faire et réfléchit à la sortie du confinement. Xavier Meuny, président du syndicat de la librairie française.
La vie et l'essence même d'un commerce tel que la librairie, qui est basé sur la discussion, l'échange, sur la relation tactile avec les produits, le livre. Sans doute faudra-t-il équiper nos équipes de masques, sans doute faudra-t-il limiter le nombre de clients dans les librairies, sans doute les clients des librairies ne seront-ils pas totalement libres de leurs gestes non plus.
C'est au fond l'idée même que nous nous faisons de la librairie qu'il faut réinventer.
Puis au pire, il reste aussi la version numérique. Alors, allez faire un tour sur le site de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Elle met à disposition des millions de ressources gratuitement. Et par exemple, cette version des Travailleurs de la mer de Victor Hugo dans l'édition de 1876. C'est une version illustrée, c'est une petite pépite, je vous conseille. Sur le site de la BNF, bnf.fr.